Et nous sommes le mercredi 18 mars. Un grand, grand bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus sur France Inter pour ces deux heures de direct qui démarrent alors que le confinement de la France est devenu hier une réalité.
Oui, Nicolas et moi sommes particulièrement conscients du rôle de la radio dans ces moments inédits et difficiles. On est ensemble jusqu'à 9h pour vous informer, vous donner la parole et vous donner des conseils pour tenter de vous aérer l'esprit.
Mais oui, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le quotidien d'un pays donc confiné, avec des déplacements très limités et désormais strictement contrôlés. Nous serons également en direct de la gare du Nord ce matin, gare d'ordinaire la plus fréquentée d'Europe. On voit ça, Agnès, avec vous, après les autres titres.
Vivre confiné, oui, mais à la montagne ou à la campagne, de nombreux citadins ont fait ce choix. Le gouvernement n'exclut pas des nationalisations temporaires pour sauver les grandes entreprises françaises, gros plan sur le secteur aérien. Les masques en tissu que l'on fabrique soi-même sont-ils efficaces? Réponse dans ce journal. Quand Israël utilise les moyens de la lutte antiterroriste pour traquer les malades du Covid-19, et puis le Tour de France aura-t-il lieu cet été? La question est posée.
Nos invités ce matin à 7h50, Léa.
Le gouvernement n'exclut pas des nationalisations d'entreprises, vient de le dire Agnès. Qu'en pense-t-il? Comment juge-t-il les mesures prises pour soutenir les PME et les salariés dans cette crise? Et le report de la réforme des retraites. Laurent Berger, secrétaire national de la CFDT, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, dans le grand entretien de la matinale, nous recevons Denis Malvy. Il est expert infectiologue au CHU de Bordeaux et il est membre du fameux comité scientifique qui conseille l'exécutif dans sa lutte contre l'épidémie. Vous êtes très nombreux, amis auditeurs, à nous appeler au standard. Il est ouvert, il attend vos questions. 01 45 24 7000.
France Inter.
Des policiers hurlant aux passants dans des mégaphones de rentrer chez eux, des promeneurs trop nombreux sur les plages de Bretagne provoquant la grosse colère du préfet du Finistère, près de 8000 contrôles de circulation à Paris et la Petite Couronne, quelques exemples de la mise en place des mesures de confinement depuis hier midi. L'heure était plutôt à la pédagogie, mais dès ce matin, le montant des amendes passe de 38 à 135 euros. Impossible de sortir sans son attestation, les contrôles seront renforcés. Bonjour Mathilde Duhimy.
Bonjour Agnès.
Vous êtes l'envoyée spéciale de France Inter ce matin, gare du Nord à Paris, une gare quasi déserte, Mathilde.
Oui, oui, la gare du Nord est déserte. Il n'y a pas pour l'instant de contrôle policier, mais très peu de voyageurs attendent leur train avec leurs valises. Très peu sortent également des trains de banlieue. Une scène complètement inhabituelle ici, hein, dans la plus grande gare d'Europe où se brassent habituellement des milliers et des milliers de voyageurs. Ceux qui sont venus ne disent ne pas avoir le choix. Ils doivent absolument aller travailler. Souvent, ils ont leur attestation dans le fond de leur sac. Et c'est le cas de Cécile et Sabrina. Sabrina, elle, est passée juste aux abords de la gare du Nord, mais elle a préféré venir à pied du nord de Paris. Cécile, elle, habite dans le Val d'Oise et elle travaille dans le commerce.
C'est très désert. On a l'impression que c'est une ville fantôme, là. Je suis du 95. Et mon train, il n'y avait personne dedans. Ça fait bizarre. C'est dur quand même, parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup de monde et là, il n'y a personne.
Oui, je travaille ici, oui. Faire le ménage le matin, le bureau. Et on n'a pas le choix parce que le responsable, il a dit, il faut venir, même s'il n'y a personne, il faut qu'on passe. Et voilà, je marche. J'ai pas pris le métro. J'ai dit, bon, je vais aller à pied. Et c'est bien de regarder parce qu'il n'y a personne. J'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je vois ça, moi.
Alors, devant une si faible affluence, la RATP et la SNCF ont déjà réduit leur trafic. Beaucoup de bus également sont vides devant nous. Ceux qui doivent aller travailler le font le cœur lourd, stressé. Ils vont devoir s'habituer à une ville sans trafic, sans piétons, si ce n'est des gens masqués ou avec une écharpe qui tentent de rejoindre leur travail le plus vite possible.
Merci Mathilde Dehimy en direct de la gare du Nord ce matin pour France Inter. Ajoutons que les deux compagnies de car Flixbus et Blablabus ont suspendu leurs activités hier soir et que le site Blablacar déconseille le covoiturage, sauf si c'est absolument nécessaire. Il est donc désormais impossible, sauf exception, de quitter son domicile, ce que de nombreux habitants des grandes villes ont fait jusqu'au dernier moment, se ruant sur les locations de voitures pour rejoindre une maison à la campagne ou à la montagne, de famille ou prêtée par des amis. Emmanuel Grabé a joué à un couple de Parisiens partir dormir en Haute-Savoie.
Le premier discours d'Emmanuel Macron avait tétanisé Alice. Celui d'Edouard Philippe, le samedi soir, agit comme un électrochoc. Avec son compagnon Joris, ils comprennent immédiatement que le confinement italien attend la France.
Dans 45 mètres carrés, avec ses chats, sa femme, le môme de 2 ans et demi. À la fin, c'est Xavier Dupont, quoi. Je tue tout le monde. On tient pas, c'est impossible.
Dans le quart d'heure qui suit, une voiture est louée. La journée du lendemain achève de les convaincre qu'ils ont fait le bon choix.
Dimanche matin, on était encore dans les squares, dans les parcs. On fait partie d'ailleurs des Parisiens imprudents qui ont continué à aller se balader jusqu'au bout.
Rester enfermé, impossible. Lundi matin, direction la Haute-Savoie, le chalet d'une amie, comme pendant les vacances.
On savait que c'était un écrin de nature, de verdure, et que ce serait facile d'aller se balader sans contaminer personne, sans nous être contaminés.
Un endroit qui les rassure, mais ici aussi, l'épidémie assombrit la vie.
Les commerces, on a l'habitude d'aller, tout ça est à l'arrêt. Chez le primeur, franchement, c'était un peu la panique à bord. On n'est pas en train de se dire, ah, super, c'est des vacances, c'est pas du tout l'ambiance.
Et même si la Haute-Savoie a été touchée avant Paris, le risque de contaminer un village indemne existe.
On a une amie qui a des enfants, on ne va pas aller la voir. Les seuls contacts qu'on aura, c'est pour faire les courses. Et on respectera les distances de sécurité. Et si on est malade, on mettra un masque et on fera le maximum.
Pour l'heure, Alice et Joris sont prévus de rester 3 semaines, mais tant que le confinement durera, ils ne bougeront pas.
Restez chez vous, c'est le message martelé hier soir par le Premier ministre sur France 2. Seule façon de se protéger et de protéger les autres. Le nombre de cas en France double tous les 3 jours, avec désormais 7 730 contaminations, dont 700 personnes en réanimation et 175 morts, dont 7% avaient moins de 65 ans. Les 6 régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Pour soulager le CHU de Mulhouse, 6 patients vont être transférés aujourd'hui par avion militaire vers Toulon, dans l'attente de la construction d'un hôpital de campagne à Mulhouse dans les jours qui viennent. Le Premier ministre a également répondu hier à l'incompréhensible polémique lancée par Agnès Buzyn. La candidate à la mairie de Paris affirme désormais avoir averti l'exécutif dès le 30 janvier que le scrutin municipal ne pourrait sans doute pas se tenir, tout en acceptant quelques jours plus tard de devenir tête de liste à Paris. Karine Bécard.
Le chef du gouvernement a été très directement attaqué par Agnès Buzyn. Puisqu'elle l'avait, dit-elle, suffisamment prévenu du danger à 1 mois et demi des élections municipales, le Premier ministre a préféré botter en touche et utiliser le conditionnel.
Agnès Buzyn m'a dit fin janvier que si nous étions dans le pic épidémique au moment des élections, alors il serait difficile de les organiser. Mais au moment où elle m'a dit ça, beaucoup de médecins pensaient qu'il ne s'agissait pas d'une épidémie qui produirait son effet à ce moment ou qui aurait cet impact.
Pas sûr que cela suffise à calmer les oppositions qui pointent déjà la responsabilité de l'ancienne ministre de la Santé et surtout les graves erreurs qui auraient donc été commises par les 2 têtes de l'exécutif. Ce qu'a tenté de balayer droit dans ses bottes le Premier ministre Édouard Philippe.
Il y a quelques mois, il y avait des gens qui disaient « vous en faites trop » et d'autres qui disaient « vous n'en faites pas assez ». Toutes ces polémiques, je les accepte, je les connais, je suis le chef du gouvernement, j'assume absolument toutes les décisions du gouvernement.
Reste à comprendre pourquoi. Pourquoi Agnès Buzyn lâcherait maintenant le président de la République et son Premier ministre, incompréhensible pour l'un des cadres du parti de la REM, qui rappelle que l'heure est à l'état d'urgence, pas aux états d'âme, d'une candidate arrivée 3e au premier tour des élections municipales.
Concernant la situation économique, l'État n'exclut pas de nationaliser une entreprise qui se retrouverait en grande difficulté du fait du Covid-19. S'agissant d'Air France, par exemple, la participation de l'État actuellement à 14,5% pourrait être augmenté, car le secteur aérien est en grande difficulté. 70% de voyageurs en moins et des pertes estimées au niveau mondial jusqu'à 200 milliards de dollars. Les compagnies low-cost pourraient être particulièrement touchées, Philippe Lefebvre.
3 signes montrent que la situation s'aggrave de jour en jour pour les compagnies aériennes. Le groupe Air France KLM, tout d'abord, va mettre en place des mesures de chômage partiel pour les 6 prochains mois. Cela représentera 50% du temps de travail et tous les corps de métier seront touchés. Le groupe IAG, qui possède notamment British Airways et Iberia, annonce une réduction de 75% de ses vols. Et enfin, les compagnies américaines, elles, réclament d'ores et déjà au gouvernement américain 50 milliards de dollars pour faire face à la situation. Mais les mois qui viennent risquent d'être aussi déterminants en termes de survie pure et simple des compagnies. C'est ce que redoutent les dirigeants d'EasyJet, tandis que du côté de Ryanair, on indique que les avions resteront pratiquement tous cloués au sol pendant les 10 jours qui viennent. Et cela aura aussi des conséquences dans les aéroports. À Roissy et Orly, on prévoit une baisse de trafic de 25% dans les 5 mois à venir et le groupe Paris Aéroport ne va plus faire payer de redevances de stationnement aux compagnies aériennes dont les avions sont immobilisés du fait de la crise.
Et de fait, Orly a fermé hier soir le terminal 2. Roissy fermera en début de semaine prochaine le terminal 2G et le terminal 3, d'où partent les compagnies low cost justement, dont Vueling et les vols charters. Parmi les sorties autorisées, les courses d'alimentation, les boulangeries sont d'ailleurs autorisées à ouvrir 7 jours sur 7 pour répondre à la demande, les courses dans les pharmacies, où la recherche du petit flacon de gel hydroalcoolique se révèle toujours particulièrement difficile, où la vente de Doliprane sera désormais contrôlée, impossible également de se procurer des masques réquisitionnés pour le personnel de santé. Alors les réseaux sociaux proposent des tutos de couture pour fabriquer des masques en tissu. L'initiative part d'un bon sentiment, mais est-ce vraiment efficace? Élément de réponse avec le professeur Pascal Astagnaud, médecin et spécialiste de l'hygiène à l'assistance publique hôpitaux de Paris.
C'est une fausse bonne idée parce que, le masque il n'est pas fait pour protéger la personne vis-à-vis de l'extérieur, mais pour que la personne évite d'envoyer, entre guillemets, ses postillons sur les autres. Deuxièmement, un masque, ça se change parce que au bout d'un moment, il est humide le masque, donc il finit par ne plus remplir sa fonction. Donc un masque en tissu, il va être souillé, contaminé, il va devenir humide et de toute façon, même déjà au départ, le tissu ne filtre pas. En plus, il y a une façon, il n'y a pas que ça, il y a aussi une façon de les porter. Donc si le masque n'est pas à la bonne dimension, etc. Mais de toute façon, bon, je voulais que les gens peuvent se mettre du coton dans la bouche aussi. Enfin, vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, on va pas recommander des choses comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc nous, on ne recommande pas des masques en tissu. C'est une fausse protection, une fausse bonne idée.
Voilà, c'était le témoignage de Pascal Astagnaud, médecin et spécialiste de l'hygiène à la PHP. Sur un plan médical, justement, le laboratoire français Sanofi se dit prêt à offrir des millions de doses d'un antipaludique, le Plaquenil, pour traiter potentiellement 300 000 malades, après des essais jugés prometteurs auprès de patients atteints du Covid-19 et c'est mené par le professeur Raoult à Marseille. La surveillance des malades qui atteint des proportions sans précédent en Israël. Les mesures de confinement sont là-bas les mêmes qu'en France, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou est allé plus loin que dans n'importe quelle autre démocratie. Par décret, il autorise le recours à la surveillance électronique des malades ou présumés tels. Explication de notre correspondant à Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Jusqu'ici, le Shin Bet utilisait la surveillance électronique pour la lutte antiterroriste. Face au coronavirus, ce service israélien de sécurité intérieure pourra géolocaliser et intercepter les personnes en quarantaine sorties dehors grâce à leur portable, leur carte bancaire, les caméras de surveillance ou toute autre empreinte électronique. En étudiant leurs données personnelles, les autorités espèrent aussi remonter leur parcours avant contamination et prévenir le maximum de personnes qui les auraient approchées. Vu la situation, le procureur général de l'État autorise les mesures d'exception, pas besoin du feu vert d'un magistrat pour lancer une enquête électronique, conservation des données aussi longtemps que nécessaire. Mais surtout, Benjamin Netanyahou a signé le décret au cœur de la nuit de lundi à mardi sans attendre l'avis du Parlement, qui pourtant en débattait au même moment. Son concurrent Benny Gantz, chargé de former le prochain gouvernement, n'est pas opposé à ces mesures, mais il estime que même en période exceptionnelle, il ne faut pas renoncer à la transparence. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et dans le reste du monde, les mesures de confinement se multiplient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 avril en Belgique. Le Premier ministre australien ordonne à ses ressortissants de ne pas quitter le pays. Donald Trump change de ton en exhortant les maires et les gouverneurs à appliquer les recommandations. L'ensemble des 50 États sont désormais touchés par la pandémie et la presse américaine évoque un plan de 850 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine. La campagne en vue des élections présidentielles continue tout de même aux États-Unis. Donald Trump a été désigné officiellement candidat pour les Républicains et Joe Biden a remporté les primaires démocrates en Floride et dans l'Illinois. L'Euro de foot reporté l'an prochain, Roland-Garros reporté en septembre, Paris-Roubaix annulé. Le sport a encore vu hier de nombreux événements majeurs annulés ou reportés. Alors, qu'en est-il du Tour de France, qui doit démarrer en principe le 27 juin de Nice? Élément de réponse avec Fanny Lechevestrier.
Officiellement, la question ne se pose pas encore. Trop tôt, nous dit-on, pour spéculer sur l'annulation de la course cycliste la plus populaire au monde, l'un des plus grands événements sportifs. Samedi, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, affichait d'ailleurs ses espoirs au micro de France Info.
C'est dans plus de 100 jours. Vous savez, quand les gens vont reprendre une activité normale, et on espère tous comme chaque citoyen, que ce sera le plus tôt possible, il y aura une frénésie, une envie encore plus forte qu'avant, sans doute.
Et pour le moment, on ne parle pas encore d'annuler non plus le critérium du Dauphiné prévu avant, dès le 31 mai, et qui sert souvent d'ultime réglage à bon nombre de favoris du Tour. Des coureurs qui, en revanche, c'est certain, commencent à s'inquiéter pour leur préparation, confinés chez eux à faire du vélo d'appartement, inquiets de voir que le calendrier s'allège comme peau de chagrin et qui pourrait les propulser sur les routes du Tour à court de forme et de repères.
Voilà, c'était Fanny Le Chevestrier. Mmh. Question évidemment aussi autour des Jeux Olympiques de cet été. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Alors vous, comment vivez-vous cette période de confinement? France Inter a mis en place un répondeur ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour vous permettre de témoigner.
Le numéro de téléphone est le 01 56 40 68 68. Nous diffusons un extrait tous les jours à 13h45 dans la tranche d'information de Bruno Duvic, de vos messages. Donc, alors n'hésitez pas à appelez-nous. Merci Agnès Soubiran.